France Inter.
Ce dimanche, Interception, c'est une histoire de bande. Bande de filles, d'abord, qui veulent rester entre elles, mais ne partez pas très loin, les garçons, ça vous concerne. Et bande de jeunes, aussi ou moins jeunes, qui adorent jouer à ce qu'ils ne sont pas, sur un coup de dé. Vous allez entrer chez les rôlistes, les fanas de jeux de rôle. Bon, les filles, on fait comme on a dit, alors on fait bande à part. Eh ben, on n'est pas toutes seules. Vous avez remarqué, comme nous, qu'il n'est pas rare désormais de trouver en France des boîtes de nuit sans hommes, des salles de sport pour les femmes seulement, des compagnies de VTC avec chauffeuses exclusivement. Alors sortons tout de suite de la caricature, l'idée c'est pas de rester entre femmes partout et tout le temps, c'est simplement de se réserver bien plus qu'une chambre à soi, comme dirait Virginia Woolf, mais un espace à soi dans l'espace public. Vous allez entendre cette phrase dans le reportage, c'est pas contre les hommes que l'on cherche de plus en plus des lieux en non-mixité, c'est pour les femmes. Les hommes trans et les personnes non-binaires sont aussi les bienvenus. Ce qui compte, c'est de créer du confort. Un lieu de confiance où personne ne vous observe et personne ne vous juge. Le sport est l'un des meilleurs exemples, surtout quand vous habitez la région de Grenoble et qu'à vélo, ça monte.
Interception. Fabienne Sintès sur France Inter.
On n'a pas besoin d'expliquer pourquoi ça nous dérange, que ce soit une remarque sur nos fesses ou une remarque sur on n'est pas assez forte ou au contraire on nous dit bravo dans une montée comme si on était incapable de monter un col. Moi ça me fait un peu du bien de partager cette colère et juste en disant ah oui toi aussi je te comprends, je t'entends, je vis la même chose et on fait de mal à personne.
Ce que vous entendrez beaucoup aussi dans ce reportage, c'est pas d'enjeu. On s'en fiche pas mal de savoir qui arrive la première ou si on a du style en danseuse dans les côtes. Ces femmes, au fil des rencontres que vous allez faire, ont besoin de cette absence de regard. C'est aussi simple que ça. Est-ce que c'est une démarche politique? Pour certaines, bien sûr. Est-ce que ça dit juste « je veux être tranquille » aussi? C'est donc à Grenoble que nous allons. On va également faire de la musique, sans se préoccuper de savoir si ça sonne toujours juste. Mais avant cela, sortie vélo avec les dérailleuses, balade en non-mixité sur les bords de l'Isère. La seule qui ne pédale pas parce qu'elle pose les questions, c'est Cécile Bidot.
Bonjour, c'est vous les dérailleuses?
Oui,
enchantée. Enchantée Cécile. Donc ça c'est le vélo cargo dans lequel je vais monter.
Exactement.
C'est vous qui allez pédaler et moi je serai dans le
voilà.
Dans la barquette comme on
dit. Je vais essayer de pédaler. Moi c'est Pauline. J'organise les rides et d'autres choses au sein des dérailleuses.
Les rides, en français, ça veut dire les balades.
Voilà, les balades.
Ça fait combien de temps que ça existe?
Un peu plus d'un an.
Là, cette sortie, et comme toutes les autres d'ailleurs, c'est non mixte. Comment vous faites ça, d'ailleurs?
On a un groupe WhatsApp, on juge au prénom. Et si on a un doute, on va demander à la personne si la personne se reconnaît dans la non-mixité. Donc là, on attend à peu près 20 personnes.
Combien de kilomètres on va faire?
27, je crois, sur du plat. C'est très rare à Grenoble de faire du plat, donc c'est bien.
Salut.
Si t'arrives à te mettre en tailleur,
je m'assois.
Ouais.
Ok.
Donc on va essayer de partir. Est-ce qu'on peut dégager là le tarmac? On va s'envoler là.
Donc on est parti, c'est un peu perturbant parce que moi je suis dos à la route.
Voilà, ouais.
Je suis dans la barquette face à Pauline qui pédale.
Ça le fait.
Donc là on est sur un pont qui traverse l'Isère.
On rejoint Porte de France. Oh waouh, on est nombreuses. Je vois toutes les filles. Ah, coucou Cynthia! Premier événement qu'on a organisé, on était 45 et on pensait pas qu'il y aurait autant de filles qui répondraient présentes. Il y a de la demande en fait. On a des habitués et on a à chaque fois aussi des nouvelles. Là, il y a plein de nouvelles qu'on n'a jamais vues. Donc c'est cool.
Ça descend là, on prend la vitesse.
Ouais.
Ça
pour avoir déjà roulé en mixité, on s'attend moins. Enfin, il y a souvent l'esprit de compétition qui est là en vélo, donc le chrono, la vitesse, machin. Donc souvent, il y a moins d'adaptation. Alors que là, il y a plein de filles qui savent rouler fort, tant qu'ils savent aussi attendre pendant les rides chill, quoi, pendant les balades. Hop, ça tourne une côte encore. La côte, mon dieu. Oh waouh.
Vous êtes bien là?
Ah bah moi parfait. Et vous?
C'est quoi votre prénom?
Aude.
Et vous avez quel âge?
J'ai 52 ans. C'est sympa, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de, d'esprit de compète. Moi j'ai envie de me mettre au vélo un peu plus sportif. Et dans les clubs mixtes, c'est pas toujours très fun. Le fait d'être entre femmes ou minorités de gens, les femmes on est 50% de l'humanité quoi. Donc on n'est pas une minorité, mais il se trouve que oui. Pour quelques hommes qui ont des comportements pas cool, bah en fait c'est plus confortable de se trouver entre femmes quoi.
C'est d'aller devant les filles.
Ça va dans la barquette?
Ça va très bien. Et vous, Marion, ça va?
Eh ben oui, ça va super. C'est très agréable de voir la ville comme ça, sous un autre visage.
Parmi la vingtaine de personnes qui participent à cette promenade, il y a Marion Tillous, qui habite à Grenoble, qui est maîtresse de conférences en géographie à l'Université de Paris 8 et spécialiste des questions de genre dans l'espace public.
Je pense qu'on peut s'arrêter là. Je fais un redépart en virage gravier barrière.
C'était vraiment un très beau moment d'être voilà, avec toutes ces femmes, d'avancer ensemble, de revenir ensemble pendant la nuit à des endroits où seule j'aurais pu ne pas me sentir trop à l'aise. Et là, c'était vraiment super. Et pour ma recherche aussi, c'est vraiment l'empowerment en train de se faire. C'est-à-dire on voit que les pratiques de non-mixité, eh ben, elles font qu'on peut se déplacer de manière confortable, avoir des loisirs qui passent par le corps, qui passent par le sport, ensemble, de manière confortable. En tout cas, oui, ça encourage à étudier ces pratiques de non-mixité. Je vous repasse devant, peut-être. C'est vrai que ça change quand même pas mal les choses de rouler à plusieurs.
Hello. À l'Empire.
Tu mets la béquille et tu sors.
Alors là, on est arrivé, c'est ça, Pauline?
Ouais, on est arrivé au bivouac. Donc c'est un café, enfin un bar où on va boire un coup après la balade pour discuter avec des filles avec qui on n'aurait pas pu discuter ou finir des conversations.
À la vôtre. Allez. Gilles, vous êtes radieuse.
On est parti.
Gilles.
On se monte.
À la vôtre.
Nadège, 48 ans, deux enfants, deux ados, donc j'ai un peu de temps pour faire de vélo.
Moi, c'est Pauline, j'ai 24 ans. Du coup, je fais partie de l'organisation des dérailleuses avec 8 autres très bonnes copines.
Je m'appelle Romane, j'ai 26 ans. Je fais aussi partie du groupe qui organise les dérailleuses.
La non-mixité, c'est un outil pour se sentir mieux en mixité. C'est pas l'exclusion radicale des hommes, pour nous en tout cas.
On peut le développer un peu, c'est intéressant, un outil pour être mieux en mixité.
Ben, vous m'aidez là, les copines.
De confiance et de capacité en soi. Je pense que si on se dit en fait je suis capable, bah, c'est plus de se dire bah, j'ai suffisamment confiance en moi et en mes capacités pour se dire bah, en fait je peux rouler avec des mecs et des fois bah, je dépose des mecs derrière dans les montées quoi. C'est aussi possible quoi. Je pense que la société elle nous inculque pas du tout la confiance. Et de se retrouver en non-mixité, pour moi, ça nous apporte de la confiance et de dire « Ah ouais, c'est possible ». Il y a une notion de transmission, en fait, pour moi aussi, dans le partage et dans les dérailleuses, de dire « Et comment tu t'es préparé à faire ça ?»« Ah ouais, c'est bien ça, ouais, ok ». On a toutes des histoires de conseils de Roger qui nous dit « Vous montez drôlement bien, dit-on !» Et franchement, les premiers rides que j'ai fait, les filles, on avait toutes des histoires où on disait « Non, mais moi, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus de pédaler avec des mecs qui te regardent pas parce que soi-disant que tu pédales mal parce que t'es une femme. »
Ou ouais. Alors qu'ils posent un regard dérangeant, ça arrive aussi.
Plus qu'un regard. Hein. Ouais. Des remarques, comme ouais. Tu dis, des remarques non sollicitées. Enfin, c'est étrangement bizarre la facilité qu'ils ont à dire les choses.
Ouais, on ne se permettrait jamais de faire ça, nous. Jamais on se permettrait de ce genre de remarques, quoi.
Des exemples.
On attend un point de rendez-vous et puis là, il y a un groupe d'hommes qui nous jugent sur notre tenue vestimentaire parce qu'on était en short. Et que ça ne se faisait pas de rouler en short quand il restait de la neige sur les sommets. Ils bloquent la conversation sur un truc qu'on leur a pas demandé, parce qu'on était en short et on voyait nos genoux. Enfin, on a trouvé ça hallucinant. Et des histoires comme ça, il y en a des dizaines de filles qui nous racontent des trucs encore plus ahurissants que ça, quoi.
C'est un aspect un peu, on se purge aussi de tout ça et on n'a pas besoin d'expliquer pourquoi ça nous dérange, que ce soit une remarque sur nos fesses ou une remarque sur on n'est pas assez forte ou au contraire on nous dit bravo dans une montée comme si on était incapable de monter un col. Et de partager entre nous sans avoir à expliquer pourquoi ça nous dérange, pourquoi c'est insupportable, pourquoi ça nous prend de l'énergie, pourquoi ça rentre dans notre intimité alors qu'on est juste sur notre vélo à vouloir rouler tranquille. Moi, ça me fait un peu du bien de partager cette colère, et, enfin, sans hurler complètement, mais juste en disant « Ah oui, toi aussi, je te comprends, je t'entends, je vis la même chose et on fait de mal à personne. »
Il y a une histoire parfois de sécurité aussi. On en parle beaucoup pour les joggeuses, mais...
Moi, j'ai eu... Mais il y a très longtemps... un truc sexuel, quoi, où j'étais toute seule sur mon vélo et... Ben, ça fait flipper, quoi, ouais.
Vous avez été agressée vous-même ?
En fait, il s'est masturbé devant moi, quoi. Il était en voiture, il m'a doublé, et il s'est arrêté dans un chemin, et il savait que j'allais passer, et il était sur le bas-côté en train de se masturber devant moi, quoi. Donc après, quand t'es sur une petite route et que t'as une camionnette qui te suit, tu respires, tu dis, bon, c'est peut-être pas un qui va m'agresser, il veut juste doubler, je vais m'arrêter. Mais ouais, il a fallu prendre sur moi, quoi, et me dire, bah, j'y vais quand même, parce que j'ai envie de faire du vélo, donc je vais faire du vélo. Et je veux pas rester chez moi sur mon canapé, parce que y a un ou deux connards... fait des trucs pas cool, quoi. Et je suis fière de rouler en groupe avec des filles, et on est bien, on a aussi notre place. Et on ne doit pas toujours se pousser, se cacher, c'est prendre notre place. Oser prendre notre place.
Si ça nous fait du bien d'être ensemble, on n'a pas non plus à s'en justifier. On n'empêche pas des gars de rouler en groupe ou seul. Enfin, juste on roule nous et c'est tout, quoi.
Pour moi, c'est pas un recul. Les gens, c'est vrai qu'ils ont du mal à comprendre. Je dis, mais c'est pas contre vous, en fait, qu'on fait ça. On fait ça pour nous. C'est ça. En fait, les hommes, ils ont l'impression qu'on fait ça contre eux. En fait, il n'est pas du tout question d'eux. Hein.
C'est la première fois qu'ils se sentent exclus et ils sont là en mode « Ah,
c'est
ça !»
C'est vrai, c'est pas contre eux. Hein. C'est pour nous.
À bientôt.
À bientôt.
Pour approfondir ces discussions, nous retrouvons la chercheuse Marion Tillius. Vous l'avez entendue, elle a suivi la sortie à vélo avec les dérailleuses. En tant que géographe, elle a étudié plusieurs expériences concrètes de lieux réservés aux femmes à travers le monde, notamment dans les transports en commun.
Au début du XXe siècle, il y a eu des expérimentations de wagons non mixtes dans le métro, à New York en 1909, à Tokyo en 1912, avec des femmes bourgeoises qui ne voulaient pas être confrontées à la plèbe et surtout pas aux hommes des classes populaires dont elles trouvaient les comportements inconvenants. Et ma question, c'était, est-ce qu'on retrouve les mêmes logiques à l'œuvre dans les demandes qu'on peut avoir aujourd'hui autour des wagons non mixtes ? Donc moi, je me suis intéressée en particulier à la controverse qui a eu lieu à São Paulo autour des années 2013-2014. Au Brésil, oui. Où l'Assemblée législative donc de l'État de São Paulo a voté pour l'introduction des wagons réservés aux femmes, et ensuite le gouverneur de l'État de São Paulo devait donner son aval ou mettre son veto. Et donc il y a eu plusieurs mois entre ces deux décisions où on a eu toute une controverse qui s'est déployée. Et c'est ça qui m'a intéressée, c'est de voir qui prenait quelle position. Et en l'occurrence, on avait une division au sein des rangs féministes eux-mêmes. Il y a aussi la question de qui va faire la police du genre à l'entrée du wagon, qui va décider qu'une telle est une femme et elle a le droit d'entrer ou pas. Mais il y avait aussi des arguments qui sortaient de l'ordre du pratique et qui étaient plutôt sur est-ce que introduire un dispositif en non-mixité, et ben ça veut dire réintroduire une ségrégation. Et donc est-ce que ça viendrait rompre un ordre universel de l'espace public ?
Alors, une question que je vous pose.
Est-ce que c'est introduire de la ségrégation, un recul éventuellement de l'égalité homme-femme ?
La ségrégation, elle existe actuellement. Si vous prenez le métro ou le bus la nuit, eh bien, vous allez vous rendre compte que très rapidement, il y a une non-mixité qui s'instaure, sauf qu'elle est masculine. Donc l'ordre universel de l'espace public, il n'est pas si sûr que ça, en fait. Il est affirmé partout, mais en fait, c'est vraiment pas si sûr que ça que cet espace soit mixte tout au long de la journée, même si on parle des heures hors de la nuit, parce qu'on a aussi les heures de pointe qui sont des moments de congestion maximale et donc de vulnérabilité maximale pour les personnes, en particulier les plus jeunes. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué de parler de ségrégation, d'un dispositif qui tente au contraire de remettre de la mixité. Sauf que cette mixité, elle va prendre du temps et que, dans un premier temps, eh bien, il faut avoir des espaces qui vont mettre fin à la violence. Enfin, des espaces ou des dispositifs.
Juste de votre expérience à vous, est-ce que vous avez l'impression que ce sont des initiatives qui se développent ?
Alors oui, de mon expérience, mais depuis assez longtemps, depuis maintenant peut-être 10-15 ans. C'est en expansion, oui. Voilà, les effets du mouvement MeToo portent aussi leurs fruits. On a une expansion des initiatives féministes qui est de plus en plus marquée.
Vous-même, vous fréquentez des lieux en non-mixité ?
Oui, tout à fait. Moi, je fréquente les jams en non-mixité en particulier.
C'est-à-dire faire de la musique entre personnes identifiées comme femmes ?
Voilà, c'est ça. Des personnes qui vont faire de la musique entre elles. Une jam, c'est un moment où on va pas forcément essayer de créer un morceau, mais juste venir chacune avec notre instrument. Et puis, avoir cette conversation musicale, c'est-à-dire jouer entre nous et prendre du plaisir à ça.
Et justement, ce soir, il y a une jam à Grenoble dans la salle de concert Le Ciel. Cette soirée musicale est donc réservée aux femmes. La petite particularité, c'est que l'ingénieur du son est un homme. Il effectue quelques réglages sur la scène avant de disparaître. Et il forme aussi des bénévoles femmes pour qu'elles puissent assurer la technique.
Non, je ne saurais pas te dire.
D'accord ?
Je ne saurais pas te dire.
Ok, pas de souci.
Mais on peut inverser si tu veux.
Ouais, écoute, on va finir avec les réglages et après je repasserai un peu derrière la console si tu veux t'amuser à faire aussi un peu de grave.
Ouais.
Marion Tillous, vous êtes une habituée des lieux ?
Ouais, ça fait depuis le Covid que je viens ici.
Et la jam en non-mixité, c'est un rendez-vous important pour vous ?
Ouais, c'est un rendez-vous. Après, c'est selon les possibilités, je peux venir ou pas. Mais c'est vrai que ça marque et je suis contente de le voir dans le programme. Et les gens en parlent aussi, les amis en parlent aussi. Donc, ouais. Salut. C'est une salle avec une grande scène. Et au-dessus, ça se présente un peu comme une salle de cinéma avec des sièges qui remontent en gradin. Puis on a des rideaux noirs.
Donc il peut y avoir du public, mais du public uniquement féminin aussi.
Voilà. C'est un atelier qui est accompagné pour que tout le monde se sente à l'aise, même les personnes qui sont un peu débutantes. Donc si on a de la peine à trouver un rythme qui convient bien ou à trouver dans quelle gamme on se trouve, il y a deux personnes qui encadrent l'atelier et qui nous aident. Et si on n'a pas besoin, elles nous laissent tranquilles.
Qu'est-ce que ça vous apporte, vous ? Là, je parle à la personne, à la musicienne, pas forcément à la chercheuse.
Alors moi, en tant que musicienne, j'aime beaucoup jouer avec d'autres personnes et qu'il n'y ait pas d'enjeu, dans le sens composer, enregistrer, jouer en concert. Et là, c'est vraiment tranquille. Et là, que ce soit en non-mixité, ça aide vraiment à ça, ouais.
Bonjour, je m'appelle Claire Husson, je suis chargée de communication et chargée de billetterie à la salle de concert Le Ciel à Grenoble.
Comment ça se passe à l'entrée ? Il y a une physionomiste qui dit, parce que c'est pas forcément toujours évident de définir qui peut entrer, qui peut participer.
Voilà. Alors ça c'est la partie pas drôle. Malheureusement, en général c'est moi qui m'y colle. Si je vois quelqu'un qui aurait une apparence, on va dire, masculine, souvent en général ce que je fais c'est que je dis pas c'est interdit, vous n'avez pas le droit d'entrer, c'est que je réexplique le concept. Parce qu'en fait souvent justement les gens des fois n'ont pas fait attention, ont juste vu le mot jam, ont pas lu la suite du déroulé. Et du coup je leur explique, je leur dis c'est une jam mixée choisie, c'est une jam pour les femmes et personnes en minorité de genre. Est-ce que vous vous sentez concerné ? Et pour l'instant, j'ai jamais eu de gros soucis. En général, les gens sont très compréhensifs et justement me disent que soit ils n'avaient pas compris, soit ils ne savaient pas ce que c'était de la mixité choisie. Et souvent, je leur propose la date suivante d'une jam ouverte à tous pour qu'ils puissent revenir une prochaine fois quand c'est une initiative qui n'est pas en mixité choisie.
Du coup, tu es la première arrivée. Mais si tu veux, tu peux déjà aller t'installer dans la salle. Ils sont en train de finir
T'es déjà venue au cercle ou pas du tout?
Pas du tout, je disais que c'était la première fois que je viens à une jam, même tout court. Donc,
ok, bah trop chouette.
Je fais du piano et de la guitare chez moi. J'avoue que je la sors rarement, mais du coup là je me suis dit c'est, je pense, le bon endroit.
C'est, si y a des... c'est quoi votre nom?
C'est Anna.
Et alors qu'est-ce qui vous a motivé à venir?
La mixité choisie. Enfin, moi j'étais à Avignon avant et j'ai le souvenir d'un bar où il y avait que... Enfin, c'était surtout des hommes, voilà, et... J'étais pas forcément à l'aise. J'adore jouer dans ma chambre et au moins je suis pas stressée par le regard des autres. Mais en fait, je me rends compte que j'adore aussi être sur scène. Mais c'est ce pas à faire d'aller là-bas qui est difficile.
Et c'est plus facile de le faire en non-mixité, peut-être?
Ouais, je crois. Je suis un bon exemple du fait que ces expériences doivent exister et que ça donne la... On va dire, ça tend la main à des personnes qui seraient pas venues sinon, quoi. Donc, je crois que j'ai... moins la peur d'être jugée ou etc. Je dis pas que j'aurais été forcément jugée par des hommes, mais je me sens dans un cadre, on va dire, un peu plus safe et j'imagine une sorte de sororité et voilà, un cadre bienveillant, on va dire.
Hello, et du coup, toi, tu t'appelles comment?
Léa.
Léa, enchantée. Et tu... Ah, moi, donc, c'est Alizé et Carole. On va voir un peu le niveau et les instruments des gens et après nous on lance le truc, on joue et quand on voit que les gens galèrent un peu, on va leur voilà. Mais il n'y a pas non plus des grandes explications, voilà.
Moi je m'appelle Alizé Planck, je suis musicienne professionnelle. Les instruments vraiment c'est flûte et chant. Et j'ai une formation flûte traversière jazz. Aussi, je pratique pas mal les claviers et les percussions, de plus en plus.
Qu'est-ce que ça change d'être entre soi?
En tant que femme, on a quand même grandi en se regardant de l'extérieur beaucoup. Être une femme, c'est être avant tout un corps féminin dans l'espace. Et moi, j'ai eu une sociabilisation à travers la musique où je me suis longtemps vue de l'extérieur en train de jouer. Ce qui fait que quand on se voit de l'extérieur, en fait, on n'est pas dans son intériorité, on n'est pas dans la musique, on n'est pas dans le son. Donc du coup, les personnes qui viennent se lâchent plus facilement et voilà, elles ne sont ni observées ni jugées et aussi elles ne s'observent pas de l'intérieur.
Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est intériorisé, mais est-ce que c'est quelque chose qui est provoqué, vous diriez, aussi par la présence des hommes?
Alors, les deux, en fait, en pratiquant beaucoup de jam, en étant allé dans beaucoup de conservatoires différents, ce fait d'être observé, d'être jugé en rapport avec notre genre, et du coup, a priori négativement, hein, et récurrent. Donc du coup, c'est pas qu'une affabulation, c'est une réalité. Il n'y a qu'à aller regarder MeToo Music. Je peux vous dire des exemples. Enfin, voilà, donc on m'a des fois fait le retour des hommes pendant des cours de musique, pendant que je chantais, ils se demandaient si quand je suçais quelqu'un, je faisais les mêmes mouvements de mâchoire.
Ça, c'est des choses... Que vous avez entendu.
Pendant un cours au conservatoire, bien sûr, il y a eu des remarques sexistes de certains profs, sur les réseaux sociaux aussi, parce que je joue de la flûte traversière, donc rapport avec la bouche encore. Ça a été permanent dans mon parcours, bien sûr, ouais.
Et donc, jouer en non-mixité, est-ce que c'est une forme de refuge?
Pour certaines, ce soir, certainement que c'est une forme de refuge. Pour moi, c'est plutôt du militantisme, ce soir. Vu le nombre de femmes qu'on a empêchées de jouer de la musique dans l'histoire, à toutes les époques. Et moi, les gens qui disent « Ah, c'est de l'exclusion », j'ai envie de leur dire « Ok, donc qu'est-ce que vous faites pour l'inclusion des femmes ?» Bah, souvent, ils font rien. En fait, la mixité choisie, la non-mixité, c'est des outils qui ont été recommandés par le Haut Commissaire à l'égalité hommes-femmes dans les zones où justement il y a des problèmes de mixité. Mais en tout cas, moi, ce que je fais en animant cette jam, c'est pour créer un passage. Voilà. Parce que mon souhait, en tant que musicienne professionnelle, c'est d'avoir beaucoup plus de collègues féminines et minorités de genre pour travailler avec elles, en fait. Donc, c'est petit à petit essaimer. Un changement là-dessus.
Marion Tillius, il y a eu un joli moment là où je vous ai vu venir sur scène pour être en soutien d'une des participantes. Est-ce que ça, c'est assez révélateur de ce qui se passe ici ?
Ouais, c'est ce que d'autres personnes ont fait pour moi avant. Là, c'est une personne qui est arrivée, c'était assez beau d'ailleurs. Elle disait qu'elle ne savait pas si elle montrait sur scène, qu'elle venait qu'écouter. C'était sa première fois, puis dès la première chanson, elle a commencé à chanter et elle a vraiment une voix magnifique. C'est pas du tout grave de pas savoir, en fait. On va apprendre et on est en train de se faire plaisir et c'est ce moment-là qui compte. Et du coup, on va plus chercher les gens. Ça peut être intimidant, mais je pense de se légitimer, de dire « Mais non, tu peux venir sur scène, viens !» J'entends que tu chantes, j'entends que tu as les paroles, viens sur scène. Et puis de, voilà, de l'une après l'autre, se légitimer et se dire qu'on a le droit d'être là, que c'est chouette si on vient. Dans les endroits où j'ai été précédemment, c'était beaucoup moins le cas, c'était beaucoup plus un peu la lutte pour se montrer, parce qu'il y a beaucoup d'ego dans la musique. Et là, ben, c'est plus collectif, quand il y a besoin qu'on ralentisse un peu le rythme parce que c'est dur à suivre, ben, voilà, les personnes disent oui, pas de problème, on va la refaire, on recommence. Et de voir que la scène est grande, ma foi, et qu'il y a de la place pour tout le monde.
Un petit tour des prénoms.
Caroline.
Camille.
Léa.
Anna.
Bon, on n'était pas très nombreuses hein, ce soir. En ce moment, je cherche des musiciennes pour former un groupe. J'en trouve pas.
En tant que batteuse, il y a souvent dans les jams des mecs qui laissent pas trop la place à d'autres. Et aussi, du coup, ça crée un peu un truc d'illégitimité, quoi. De pas avoir envie d'y aller.
Ça m'a énormément sorti de ma zone de confort. C'était pas forcément toujours facile. Mais je pense que ça a aidé que ce soit en non-mixité. Je me serais vraiment pas sentie à ma place dans d'autres environnements. C'est pas facile, mais c'était trop chouette.
J'entends ce truc de oser et tout. Mais aussi, il y a des personnes, par exemple Caro, moi, ça fait longtemps qu'on fait de la musique, en fait. Juste de se retrouver dans un endroit où on sait qu'on va pas se prendre certaines réflexions. Tu sais monter ta batterie, t'as besoin de l'aide pour porter de la batterie. Ben, ça fait trop du bien, en fait, tout simplement. C'est un truc très con, mais d'aller jouer dans des concerts où du coup je joue avec d'autres personnes et qui sont en l'occurrence des mecs. Et du coup, moi, on me dit que je suis la meuf en fait de quelqu'un, enfin la copine de quelqu'un. Des détails comme ça, mais qui se répètent.
Et là, est-ce que vous avez joué différemment ?
Ben, disons que je sens qu'il y a une attention particulière dans comment on joue et quelle place. Enfin, à prendre de la place, mais à laisser aussi de la place à d'autres.
On soutient, c'est-à-dire on applaudit toujours, on est toujours à se faire des sourires depuis la scène, enfin, vraiment d'avoir une attitude aussi corporelle de soutien, d'écoute.
Dans la société qui est la nôtre aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est amené à se développer ?
On voit que c'est en train de se développer, on a vu les dérailleuses, on voit qu'il y a des collectifs qui s'emparent de ça. Mais voilà, peut-être qu'il y a des freins politiques et espérons un jour, j'espère que je serai encore là pour le voir, il y aura même plus besoin des jams en non-mixité et des espaces en non-mixité. Mais pour l'instant, tant qu'il y a une domination patriarcale, il y a besoin, ouais. Probablement ça contribue un tout petit peu à avancer vers plus d'égalité de genre. Mais je pense que le but c'est d'abord ouais, d'avoir un espace où on est tranquille et puis ensuite un objectif politique.
Entre femmes, un espace à soi. Un reportage de Cécile Bideau.
France Inter. Interception.
Si vos ados sont de grands fans de la série Stranger Things, vous avez appris à connaître les jeux de rôle. Ou peut-être leur avez-vous dit quelque chose du genre « J'ai joué à Donjons et Dragons bien avant toi ». Le jeu de rôle, c'est facile. Il faut une histoire, de l'imagination pour la faire vivre. Il faut aimer rentrer dans la peau d'un personnage imaginaire. Souvent, il faut aimer les elfes, les magiciens, les créatures fantastiques. Et il faut une ou plusieurs paires de dés. Après, ça va tout seul. Un peu jeu de société, un peu littérature, un peu théâtre d'impro. Le jeu de rôle avait presque disparu, enseveli sous les jeux vidéo. Le voilà qui revient et vit sa meilleure vie. Suivons Timur Özturk. En lançant un dé à 20 faces, il s'est retrouvé projeté à Villeurbanne. en pleine convention sur les jeux de rôle.
Il y a beaucoup de monde dans les allées, des tables de jeux installées un peu partout. Alors, par ici, on joue à Cats. C'est un jeu où l'on incarne des chats qui manipulent en secret les humains. On va s'approcher de cette famille en pleine partie.
Tu penses qu'ils sont dignes de confiance ?
Elle, c'est la meneuse de jeu.
Ok, on va aller les voir, on va leur expliquer la mission.
C'est un peu la narratrice et l'arbitre de la partie.
Qu'est-ce que vous faites là ? Qu'est-ce qu'il y a des talents utilisables ?
J'ai contrôle mental, je pourrais par exemple faire sur un gardien.
Tu veux le faire sur quel humain, ton contrôle mental ?
Bah, le gardien de l'entrée. Là.
Elle demande aux joueurs d'utiliser les pouvoirs de leur personnage pour faire avancer l'intrigue.
Comme ça, quand je ressors du corps d'humain, je récupère...
Est-ce que tu peux faire jet de utiliser un objet humain pour voir à quel point tu es doué pour mettre la poudre dans le sac ?
On jette les dés quand il faut déterminer si l'action des joueurs réussit ou échoue.
7, et utiliser un objet humain, c'est dans les compétences.
C'est 3.
En principe, les joueurs collaborent pour résoudre des énigmes, affronter des adversaires. C'est à la meneuse de jeu de s'adapter, d'improviser, en fonction de leur choix.
Il y en a quoi à la mascarade ? Il y a des humains qui nous comprennent, alors qu'ils n'ont pas télépathie.
Depuis quand est-ce que vous jouez ?
Alors certains depuis plus longtemps que d'autres. Parce qu'en fait, c'est mes enfants, je les ai fait jouer depuis qu'ils sont tout petits.
Et vos prénoms, c'est ?
Nicolas.
Julia.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de transmettre ce jeu en particulier, ce genre de jeu ?
Moi, c'est des super souvenirs de quand j'étais ado avec mes potes. Et donc, je suis content de pouvoir faire vivre ça aux gens autour de moi. De partager des souvenirs qui n'existent que dans nos têtes, finalement, parce qu'on se les a racontés, on les a vécus ensemble. Mais eux, c'est Stranger Things qui les a motivés, en fait.
Moi, j'adore Stranger Things, c'est trop bien, parce que l'ambiance années 80 et tout, et puis en plus, le fait qu'ils fassent des jeux de rôle et tout, c'est trop chouette. Puis c'est dans un univers d'ado quand même, et bon, bah, du coup, je suis bien dedans, parce que bah, je suis un peu dans l'adolescence quand même aussi, donc c'est cool. Puis en plus, du coup, ça m'a encore plus motivé à jouer, parce que bah, c'est cool de dire que tu fais un peu les mêmes choses que les personnages d'une série, quoi.
Vous avez quel âge ?
J'ai 14 ans.
Ouah, c'est haut, dis donc !
Qu'est-ce qui vous plaît, vous, autant dans le jeu de rôle ?
C'est le fait d'avoir de pouvoir s'imaginer des choses comme ça dans la tête, et puis après pouvoir en parler avec les gens avec qui on a joué, et puis... Puis tous raconter la façon dont on l'a vécu et puis pouvoir imaginer des choses. Enfin, c'est vraiment trop bien parce que t'incarnes vraiment un personnage différent de toi-même et du coup ça peut être chouette. On peut être tout le contraire de ce qu'on est de base et du coup c'est cool. Genre, par exemple, moi je suis une personne un peu extravertie et donc du coup je peux jouer des personnages tout timides et ça c'est cool parce que bah, ça permet d'être différent un peu à chaque fois, quoi.
On va aller voir les éditeurs du stand sur lequel jouent Nicolas et sa fille Julia.
Je m'appelle Anthony Bruno et je travaille pour Black Book Edition, qui est le premier éditeur français de jeux de rôle.
Pourquoi il n'a pas disparu le jeu de rôle avec l'arrivée en masse du jeu vidéo, la démocratisation des univers du jeu de rôle, mais sur d'autres types de supports.
Il n'a pas disparu, il a pris un bon coup dans l'aile quand même à la fin des années 90, au début des années 2000, parce que mauvaise réputation, parce que...
Mauvaise réputation.
Oui, mauvaise réputation. Les vieux rôlistes se souviennent d'une émission qui était Balai Masque à l'époque, avec Mireille Dumas, et puis de toute une polémique autour du fait que... Le jeu de rôle, c'est un jeu de satanistes, c'est un jeu de gens qui sont déconnectés de la réalité. Attention à vos enfants.
Plusieurs faits divers ont récemment défrayé la chronique. À Istres, Sébastien poignarde son professeur pendant le cours de physique. En Espagne, un homme meurt mutilé et égorgé par deux adolescents qui le prenaient pour un être malfaisant. Ces jeunes s'identifient à des personnages imaginaires au cours de ce que l'on appelle les jeux de rôle.
Évidemment, comme toutes les polémiques un peu vaines, ça a fait du mal à l'époque. Puis après, on est passé à autre chose. On a trouvé d'autres démons à blâmer pour les maux de la société. Mais ce qui s'est passé surtout, c'est l'arrivée d'autres jeux, les jeux de cartes à collectionner notamment, tout ce qui est les jeux vidéo, tout ce qui est les écrans en général, qui ont évidemment pris beaucoup de place. Et donc on a eu une période de creux jusqu'au milieu des années 2000. Et après, une remontée, une reprise, parce que les gens sont à la recherche aussi de, finalement, de quelque chose d'un peu plus authentique. Si c'est une pratique qui a pu avoir une mauvaise réputation à l'époque, aujourd'hui c'est tout l'inverse, parce que vous êtes autour d'une table, vous êtes à 4 ou 5 entre amis, vous lisez, vous faites un peu d'interprétation de personnages, quelque chose qui se rapproche un peu du théâtre d'impro, vous faites un peu de stats, un peu de maths, vous vous écoutez, vous êtes sur un jeu qui est coopératif par nature. Mais finalement, c'est tout ce que les parents d'aujourd'hui peuvent rêver que leurs enfants fassent. C'est marrant parce qu'aujourd'hui, les clubs de jeux de rôle renaissent dans les collèges, mais ils sont plus portés par des élèves, comme c'était le cas à l'époque où moi j'ai commencé. Ils sont portés par les profs qui étaient eux-mêmes rôlistes et qui ont envie de faire découvrir ça à leurs élèves. La première fois où j'ai rédigé un CV, jamais j'allais écrire dans mon CV que un de mes hobbies c'était de faire du jeu de rôle, c'était trop stigmatisant. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est perçu de manière extrêmement positive pour toutes les raisons que je donnais tout à l'heure.
Qu'est-ce que vous avez à la main ?
Ce que j'ai entre les mains, c'est quelque chose qu'on vient de recevoir chez Black Book Edition, c'est un peu notre bébé. C'est une boîte qui s'appelle Chroniques oubliées. C'est fait pour découvrir ou faire découvrir le jeu de rôle. On a un petit livret avec l'histoire et puis on a les dés qui vont nous permettre de jouer. Mais le format de la boîte d'initiation, c'est ce qui nous a permis de toucher énormément de monde.
Quand on dit énormément de monde, on parle de combien de ventes sur cette gamme ?
On approche de 200 000 ventes à peu près, ce qui à l'échelle du jeu de rôle francophone est absolument gigantesque. Il faut savoir qu'un jeu de rôle qui se vend très bien en France, c'est quelques milliers d'exemplaires. Et on compte énormément sur la précommande et donc l'investissement que vont mettre les joueurs eux-mêmes dans une gamme, le principe du financement participatif. Et c'est vraiment ça qui permet aujourd'hui aux jeux de rôle de connaître une sorte de nouvel âge d'or.
Cette renaissance du jeu de rôle passe aussi par les parties filmées et diffusées en ligne. L'idée vient des États-Unis, où le premier jeu de rôle, Donjons & Dragons, est né en 1974. Une chaîne YouTube a commencé il y a plus de 10 ans à diffuser des parties filmées jouées par des comédiens professionnels. Concept repris en France par la chaîne Roll & Play, l'une des plus suivies, 19 millions de vues au total. On s'est glissé dans les coulisses du tournage d'une de leurs récentes vidéos.
Alors Seb, t'es trop petit. Est-ce que tu peux te lever sur ton siège ?
Voilà, petit test voix, 1, 2, 3, 1, 2, 3, test voix, 1, 2, 3, 1, 2, 3, test voix. Très bien. Et bonjour et bienvenue dans Roll & Play, une petite émission où des comiques qui s'arrêtent tous les comédiens. On décide de jouer une campagne de jeux de rôle, c'est la campagne Echomix. Vous êtes au pied des montagnes, face à cette immense arche. Élis vient se placer au niveau de l'arche et d'un signe de la main, vous montre l'arche en vous disant « Placez-vous ici. » Je m'appelle Julien Dutel, je suis donc comédien à la base. Certains m'ont peut-être vu dans Kaamelott, je joue Kay, le sonneur de corps. Je suis aussi le maître de jeu, le meneur de jeu de l'émission. Je suis aussi le scénariste, parce que du coup, quand on mène, on scénarise aussi.
Vous en croisez des, tout simplement des jeunes qui s'y sont mis, ou des moins jeunes qui s'y sont mis, après avoir vu vos vidéos ?
Oui, on en croise. En fait, il y a vraiment deux types de personnes. Il y a ceux qui ont fait du jeu de rôle dans leur adolescence ou leur jeunesse, qui maintenant ont vieilli, ont des enfants, et qui se disent « ça m'a remotivé ». On a beaucoup eu ce genre de témoignages-là. Et puis, on a les jeunes qui se disent « ok, ça a l'air super cool, mais je ne sais pas comment faire ». Et on a beaucoup de questions sous nos TikTok, sous nos vidéos YouTube, sur Twitch, etc., sur comment trouver une table, comment monter une partie, etc. Et il y a un élan, je ne sais pas s'il est massif, c'est un peu difficile à doser, mais on a des gens qui se disent juste « Ah bah, je m'y suis mis, et c'est trop cool, et je fais ma première partie bientôt, etc. »
Il y a quelqu'un ?
Tomchat, c'est toi ?
Je prends mon marteau. Montrez-vous !
Je reconnais la voix ?
Non, pas du tout.
Si c'est une blague, elle est pas drôle.
Moi, je suis Juliette Père, je suis comédienne. Je fais du théâtre, théâtre de rue, théâtre contemporain, théâtre d'impro. Et je fais aussi de la voix off et du doublage.
Et vous incarnez qui dans la partie d'aujourd'hui ?
Dans la partie d'aujourd'hui, j'incarne Mirka Vif-Argent, qui est une naine et une roublarde. Donc voilà, je fais connaissance avec elle aussi parce que c'est un tout nouveau perso et que ben, là, on en est vraiment au prélude de la campagne, quoi.
Faites-moi un jet de sauvegarde de constitution, s'il vous plaît.
Oh là là.
Et ensuite, un jet d'athlétisme.
7, 4 et 3, 7.
13 pour moi.
Ouf.
Ah, c'est oh là là, je suis mauvaise. Hein.
Oh là là.
On a toute une génération de gens qui ont joué, qui étaient un peu en marge de la société, entre guillemets, mais qui ont pour certains été des créatifs. On peut parler, par exemple, de Maxime Chattam, hein, le parrain de notre émission. Maxime, voilà, c'est un auteur de livres à succès, et c'est un rôliste invétéré. Et en fait, on a toute une génération de rôlistes aujourd'hui qui arrivent, qui ont cette culture jeu de rôle, et qui créent des passerelles. L'Ariane, donc les éditeurs de Baldur's Gate aussi, sont des fans de jeux de rôle, et ils créent volontairement ces passerelles-là. Je pense que c'est des questions de génération créative. Le jeu de rôle, c'est assez récent, hein, c'est 74 pour les tout premiers. Et en fait, on voit tout juste débarquer les gens pour qui c'est une culture vraiment profonde et qui nous la partagent, dont avec des trucs comme Stranger Things, effectivement, ou Baldur's Gate, ou d'autres.
Une ombre grandit sur le mur derrière toi. Elle t'avale dans le noir.
Tu imagines si c'est le Démogorgon ?
C'est le Démogorgon ! Oh !
On est trop dans la merde.
J'ai un sort, Will.
Je sais pas quoi faire.
Balance-lui une boule de
Il
feu.
Faut que je fasse au minimum 13.
Non, c'est trop risqué. J'aime plutôt un sort de protection.
Fais pas ta mauviette, balance-lui une boule de feu.
J'ai un sort de protection. Démogorgon commence à en avoir assez de vos disputes d'humains.
Dans cette génération de rôlistes des années 90 devenus célèbres dans la littérature, le cinéma ou le jeu vidéo, Julien Dutel nous citait Maxime Chattam qui a participé à des épisodes de l'émission Roll and Play. On retrouve le romancier aux millions d'ouvrages vendus dans un café à Paris pour parler de sa passion.
Maxime Chattam, je suis romancier, j'écris des bouquins et je suis rôliste.
En quoi est-ce que cette pratique du rôlisme a pu influencer le romancier que vous êtes devenu ? Est-ce que vous avez commencé par jouer avant d'écrire ? Est-ce que c'est concomitant ? Est-ce que ça vous inspire ?
Je suis convaincu que je ne serais pas l'auteur que je suis aujourd'hui sans les jeux de rôle. Je ne sais même pas en fait si j'aurais écrit des romans si je n'avais pas joué aux jeux de rôle. Parce que les jeux de rôle, c'est l'école de l'imagination, c'est l'école du partage, de la narration, de la structure de l'histoire, des personnages, de comment faire vivre ces personnages et de comment s'assurer qu'une histoire va rester cohérente jusqu'au bout. Parce qu'un jeu de rôle, c'est un peu ça aussi, c'est être autour d'une table, c'est baisser la lumière, c'est parfois mettre des bougies, c'est faire le tour des joueurs quand on raconte. Imaginez, vous êtes maître du jeu, vous êtes avec vos joueurs et soudain vous leur dites, vous êtes dans une maison, pleine campagne, c'est la nuit, dehors le vent frappe contre les volets, siffle dans la cheminée, la pluie s'abat, drue sur la campagne. Vous penchez entre deux joueurs pour leur dire à l'oreille, et soudain, tu entends des bruits de pas à l'étage, le parquet grince, sauf que vous êtes tous présents dans la même pièce. Personne n'est censé être à l'étage. Que faites-vous ?
Qu'est-ce qui reste du jeu de rôle dans vos romans ?
D'abord, il y a les clins d'œil. J'aime bien faire des petits clins d'œil aux jeux de rôle dans mes bouquins. Et en fait, en fonction des livres, il m'est arrivé parfois même d'aller très loin. C'est-à-dire qu'à une époque, je voulais écrire des romans qui se passaient dans le Paris de 1900, un roman policier historique. Et donc, je me suis documenté pendant des mois et des mois. J'ai amassé, colligé 7000 pages de documentation, de plans, de gravures d'époque. Et puis, à un moment, je me suis dit, mais est-ce que je connais vraiment bien le sujet ? Est-ce que je connais le Paris de l'époque ? Et j'ai eu envie de tester. Et donc, j'ai lancé un long scénario auprès d'un groupe de joueurs avec qui j'aime bien jouer, qui se passait dans le contexte de Paris en 1900, qui ressemblait un peu au point de départ de mon roman. Et en fait, quand vous êtes confronté à des gens qui jouent avec vous, chacun a sa façon de penser, donc il va les perturber, ce que vous avez prévu. Et donc, ça m'obligeait à inventer, à improviser, et donc à vérifier mes connaissances. Est-ce que je connaissais bien suffisamment pour pouvoir ensuite écrire naturellement toute l'histoire que j'ai envie d'écrire sans avoir besoin de m'arrêter tout le temps pour vérifier ma documentation. Et donc on a fait cette longue campagne de jeu de rôle qui devait durer quelques soirs, qui a duré finalement presque un an. Et donc à un moment je me suis lancé dans l'écriture de mon livre et donc aujourd'hui Léviathan et Le Requiem des Abysses sont deux romans que j'ai écrits qui sont directement inspirés de parties de jeu de rôle. Ce qu'on appelle les geeks aujourd'hui, dans les années 80-90, c'était les losers. Hein. Sauf que eux, la plupart d'entre eux sont aujourd'hui des gens qui ont des postes à responsabilité, notamment dans le domaine de l'industrie, du cinéma, du divertissement, parce qu'ils se sont nourris de tout un tas de littérature, de jeux de rôle notamment, qui nourrissaient leur imagination, qui la développaient. Et donc plus tard, ils se sont mis à bosser dans le monde du jeu vidéo, de la bande dessinée, du roman, scénariste pour le cinéma, pour la télé, à une époque où il n'y avait pas de demande pour ça. Sauf que eux, ils ont grandi avec ça. Et quand subitement les plateformes Netflix et compagnie ont débarqué en disant « Mais nous, les gars, on a des moyens, on cherche des trucs », les gars ont dit « Bah attends, mais moi, j'ai travaillé avec vous sur tous ces scénarios-là qui m'amusent pas trop, mais je vous ai montré ce que je sais faire. En revanche, moi, mon univers de prédilection, c'est ça. Je suis capable de faire. » Et donc, je veux dire, quand Peter Jackson fait le Seigneur des Anneaux et que ça cartonne dans le monde, bon, bah là, subitement, pas mal de studios disent « Eh, dis donc, le médiéval fantastique, c'est peut-être intéressant financièrement aussi. » Et derrière, on a Game of Thrones, on a The Witcher, on a énormément de licences de médiéval fantastique qui émergent, qui cartonnent et qui, en même temps, cartonnent au niveau du jeu vidéo. Bon, ça a toujours été le cas. Mais encore plus, avec le temps, c'est plus juste un phénomène de niche, ça intéresse tout le monde, ça touche tout le monde, ça va bien au-delà du phénomène du jeu de rôle. Et moi, là où je trouve c'est génial, c'est que ça peut peut-être amener des gens à venir s'intéresser à ce qu'est le jeu de rôle. Et je vous le dis, essayez, faites du jeu de rôle. Je peux vous garantir qu'il n'y a pas une personne, quel que soit son âge, qui décroche. Quand une partie se passe bien, quand on s'amuse bien, à la fin, quand vous dites « et on arrête là pour ce soir », tout le monde fait « non !» Encore.
Jeu de rôle, les dés sont relancés. Un reportage de Timur Özturk avec Chantal Nouvelot à la prise de son. À la production d'Interception cette semaine, Xavier Yvon et Antoine Gignot. La réalisation est signée Lucie Lemarchand et Charles De Silla. Martine Messonnier est chargée de programme sur l'émission. Corentin Rouchy et Anne-Laure Cochet assuraient le mixage. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Interception au bout du monde et au coin de la rue.